ce soir. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Maucourant. Donc, Jérôme Maucourant, vous êtes, je crois, l'auteur heureux d'un recueil de textes de Polanyi. Vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 2.
Non.
Non, pas du tout.
Ça commence très mal.
C'est écrit sur votre LinkedIn, hein, pour
l'instant. C'est vrai, Lyon 2 ouais. Non, j'ai fait mes études à Lyon 2.
Ah, d'accord, enfin, voilà.
Non, c'est Saint-Étienne.
Saint-Étienne, très bien. Eh bien, je vous laisse vous présenter. Donc, l'intitulé de la conférence ce soir, c'est Qu'un Polanyi pour les nuls. Voilà.
Qu'un Polanyi pour les nuls.
C'est l'occasion de découvrir cet auteur qui gagne à être connu. Voilà, vous en saurez plus maintenant.
Je vais essayer de. Voilà, je l'ai trouvé. J'ai commis un petit ouvrage sur Qu'un Polanyi. Alors malheureusement, j'ai tout donné depuis longtemps. Ça, c'est le mien. Je le fais circuler. Voilà. Donc, il a été publié il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire maintenant. Et la première édition date de 2006. Donc, c'est une vieille affaire. Alors, comment je vais me représenter ? D'abord, je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé à cet auteur. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez personnel, finalement. Alors, l'histoire Qu'un Polanyi pour les nuls, ça dépend parce que j'ai vu comme annonce sur Internet économie, totalitarisme et tout ça. Alors, comme je suis assez bête et discipliné, j'ai fait un truc qui était plutôt dans le genre, en fait. Mais de toute façon, voilà, ça change pas grand-chose. Alors, comme beaucoup de jeunes étudiants début des années 80, j'étais un peu décontenancé en fait par ce qu'on appelle le socialisme réel, hein. Tout simplement le socialisme réellement existant, comme on disait à l'époque. Et c'est vrai qu'au moment du centenaire de la mort de Marx, on était donc en 1983, beaucoup de vous n'étaient pas nés à l'époque. Les étudiants communistes faisaient des campagnes du genre « Marx n'est pas mort, mon œil », mais quand même, il y avait quand même un gros, gros problème. Et si vous voulez, je le résumerai en une façon, hein, c'est que le marxisme nous enseignait l'union de la théorie et de la pratique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité pratique ne correspondait pas vraiment aux ambitions théoriques, hein, pour le dire simplement. Voilà. Donc, il y avait un deuil. Voilà, un deuil de certains idéaux, un deuil d'une certaine théorie. Et cette même année, en fait, on a publié en français La Grande Transformation. Voilà. Alors, La Grande Transformation, c'était un ouvrage que Polanyi a publié, il avait 59 ans, en 1944, qui a été publié 40 années après, en fait. Je vous expliquerai un peu bien longtemps, finalement, après sa publication anglaise. Ça peut sembler un peu étonnant. Et cet ouvrage, si vous voulez, pourquoi il était intéressant, ça permettait à des gens comme moi, au fond, de continuer à croire en nos idéaux, d'une certaine façon, hein, mais avec une vision plus large. Alors, évidemment, Polanyi, il avait été inspiré du marxisme, mais il s'en était émancipé. Donc ça permettait de faire une continuité, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, on ne lâchait pas l'affaire. Les combats continuent sous des formes nouvelles. C'est un peu ça en fait Polanyi quand c'est arrivé. Et je dois à un professeur de Lyon 2, parce qu'effectivement il y avait à l'époque il y avait de bons professeurs à Lyon 2, hein.
Sekoni.
Pardon,
Sekoni.
Non, c'est pas Osiris Sekoni. Alors moi je ne l'ai pas connu directement, puis j'étais en économie, lui était en sociaux. Non, c'est Jean-Michel Servet qui à l'époque enseignait à Lyon 2 et qui m'a dit mais il faut que tu lis ça, parce que ce que j'ai lu l'été 83. Révélation. Bon. Et puis, quelques années après, c'était en 87. Alors, c'était terrible parce que c'est l'époque où les facs sont vraiment envahis par ce que Polanyi appelle la mentalité de marché. C'était vraiment épouvantable. Les gens qui voulaient faire de la théorie monétaire et financière étaient un peu les abrutis de service. Si vous voulez, quand on veut gagner de l'argent, on fait un peu. Alors, on a un Lyon 2 qui est passé comme ça, c'est Jérôme Kerviel. Si vous voulez, hein. C'est cette mentalité Kerviel, en fait, elle envahissait. Alors, moi, je me sentais très étranger à tout ça. Et du coup, j'ai cultivé mon exotisme intérieur en commençant à travailler cet auteur-là. Alors, à l'époque, en fait, comme Jean-Michel Servet, lui, il était économiste, mais aussi anthropologue africaniste. Bon, c'est un peu, si vous voulez, la question des sociétés non capitalistes qui m'a intéressé, en fait. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'Égypte ancienne, à l'Institut d'Égyptologie. Je discutais avec les égyptologues pour découvrir les mystères de l'économie du Proche-Orient ancien. Parce qu'en fait, voilà, c'était une préoccupation qui était déjà là chez moi. Bon, et puis, en fait, il fallait bien gagner sa vie. Et j'ai fait une thèse d'histoire de la pensée, je vous en passe un peu plus orthodoxe. Et puis, je suis devenu maître de conférence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais à Saint-Étienne. Voilà un peu pourquoi je me suis intéressé à Polanyi. Donc j'ai travaillé longtemps sur cet auteur, et puis la dernière conférence que j'ai dû faire là-dessus, c'est ici, en fait. Et puis je me suis dit que j'allais arrêter, parce que c'est vrai que c'est un peu un travail de Sisyphe. Enfin, vous verrez, si vous regardez sur Internet, si vous laissez passer une petite feuille, je pourrais vous envoyer des références, si vous me donnez vos emails. Mais on a l'impression de tomber sur des publics qui découvrent toujours ça, et c'est compliqué, si vous voulez. Et c'est parfois plus simple de faire un travail universitaire où, effectivement, les collègues sont censés connaître un peu le sujet. Donc, je me suis dit en 2017, je sais pas, la partie est peut-être un peu perdue. Et puis, en fait, j'ai accepté votre invitation. J'ai accepté votre invitation, pas simplement parce que Philippe a insisté, mais je me suis dit, si on ne fait pas ce minimum, ça ne sert peut-être à rien, en fait, tout ça. Pourquoi ? Parce que l'université n'est plus du tout l'alma mater qu'on imaginait à l'origine. Hein. C'est même parfois une mer très déformante et très dangereuse, à certains égards. Le lieu de formation du savoir, de transmission, de production, de création, tout ça, c'est peut-être plus à l'université, c'est ailleurs. Et donc, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire, mais au fond, je ne suis pas mécontent d'avoir sur YouTube une vidéo qui a dû faire 36 000 vues sur Polanyi, par exemple. Voilà. Alors, une petite indication qui en dit très long, puis après j'arrêterai sur le point de vue personnel des choses, c'est que c'est un jeune producteur franco-canadien qui a fait ça. Il connaît bien l'Institut Polanyi qui est situé à Montréal, et qui devait en fait vendre cette vidéo YouTube à Arte. Voilà, ça devait passer. Il y avait un truc, il y avait des penseurs, il y avait Smith, et puis il y avait Polanyi, il y avait 5-6 penseurs comme ça. Et en fait, Arte a décidé que je n'étais pas assez célèbre, ce qui est vrai en fait. Moi j'ai une chemise rouge, BHL a une chemise blanche, donc on n'est pas vraiment du même bord, si vous voulez. Mais ils ont demandé à Piketty de parler de Polanyi. Bon, Piketty, il a dit des conneries, si vous voulez. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, n'importe qui aurait pu dire ça. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait vraiment lu, vraiment compris. C'était affligeant, en fait. Mais voilà, c'était Piketty, et donc ça stimule l'audimat. Alors, c'est pour vous dire, ceux qui croient encore aux ambitions de la chaîne culturelle franco-allemande Arte, n'y croyez plus trop, quoi. Voilà. Donc, David Nadjari m'a dit, écoute, c'est perdu, merci. On va mettre ça sur YouTube, et puis écoute, tu auras plusieurs centaines de vues, ça va être sympathique. Donc j'étais content. Sur centaines, on fait des conférences dans les 10, maximum, je sais pas, j'ai dû en avoir 6 à Montpellier, peut-être dû avoir 150 personnes, des gens comme ça. Bon, comme Jean-Claude Michel Bonnet, évidemment, il y a beaucoup de monde, mais Polanyi tout seul, bon, pas terrible. Et puis j'ai eu 36 000 vues quand même. Alors évidemment, une petite dizaine d'années, mais c'est pas mal. 2014, je pense qu'il l'a mise. Voilà pourquoi j'ai accepté.
Nous sommes ravis.
Bon, alors. Donc, j'ai décidé, et puis je pense que c'est peut-être pas plus mal. Finalement, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait il y a 5 ans, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là il y a 5 ans, j'en doute. Personne, donc c'est une autre génération, donc tout est refait. Mais c'est sur YouTube. Hein. Vous l'avez mis, je vous remercie d'ailleurs. On fait Polanyi, au courant, Altercato, on tombe là-dessus. Je crois qu'il y a 2000-3000 vues, c'est tout à fait honorable. Vous voyez, Non, non, vous avez fait le travail. Et oui, je vous en prie.
Je peux poser juste une petite question avant que vous commenciez. Pourquoi Carl Polanyi n'est pas connu ? Pourquoi on s'intéresse pas plus que ça ?
Pourquoi il n'est pas connu ? Il est bien connu des académiques, en fait. Il n'est pas très connu du grand public, c'est vrai. Je pense que c'est largement dû à la rhétorique qu'il a adoptée, à la forme d'exposition de ses idées, à sa manière d'écrire. Vous voyez, même Margie Madel, qui a dirigé l'Institut Polanyi de nombreuses années, m'a dit « mais j'ai dû lire ce bouquin 20 fois, en fait ». Et moi, c'est 10-15, je ne les compte plus. La grande transformation, c'est pas facile, en fait. En fait, c'est écrit très simplement. C'est le contraire de Keynes. Keynes, c'est pénible à lire. C'est... Et on a l'impression qu'il y a des mystères, alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Pour ceux qui veulent voir la définition du chômage involontaire de Keynes, bonjour les dégâts. Même John Robinson s'en amusait beaucoup. Polanyi, c'est pas du tout ça. Vous lisez ça, c'est très bien écrit. Il savait écrire... Voilà, et puis on se dit, tiens, j'ai pas tout compris, je lis une deuxième fois. Voilà, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce... Alors, Polanyi pour les lunes, pour les nuls, c'est un peu ce que j'ai fait avec Champflammarion Essai. En même temps, c'est un essai qui est personnel, c'est une interprétation personnelle. Moi, je dis pas que j'ai la vérité absolue sur le personnage, mais bon, je défends ce que je crois. Mais je pense que c'est dû à ça. C'est la forme d'exposition. Et puis... Quel parti politique pourrait se réclamer de ça ? Alors, je vais vous raconter une anecdote très drôle. On m'a dit, non, mais tu sais, tu ne travailles pas dans le vide, parce que Dominique Strauss-Kahn a la grande transformation comme table de chevet, sur sa table de chevet. Alors, c'est vrai que rétrospectivement, on peut penser que les lectures devaient être rapides, en fait. Ça devait un peu parler d'autre chose, si vous voulez. Mais bon, voilà, c'est... Pardon ?
C'est une tronche.
Ah, mais c'est une tronche. Mais si c'est sur sa table de chevet, à mon avis... Ça servait à autre chose. Bon, voilà. Des choses peut-être très intéressantes. Donc, si vous voulez, non, mais c'est pas récupérable, si vous voulez. C'est-à-dire que... Alors, je sais, il était cité, même... Il y avait Jospin qui disait oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Ça, c'est des concepts typiquement polanyiens, en fait. Mais la mise en musique de ça, c'est « mais je ne suis pas socialiste, mon prince n'est pas socialiste ». Ah bon, bah alors oui, non mais... Bon, on aurait pu ne pas voter pour toi, ça aurait été plus simple en fait, ça aurait été plus honnête en réalité. Donc, non, il est pas très récupérable en fait. Et il n'y a pas vraiment d'école en fait de polonais. Il y en a eu, alors, j'ai eu l'honneur, la chance d'en connaître une, c'est une grande dame, une grande anthropologue, qui s'est beaucoup occupée des Indiens de la Terre de Feu. C'était une amie de Françoise Héritier, elle s'appelait Anne Chapman. Mais ça, bon, c'est alors justement, je vous dis ça parce qu'elle est morte il y a une dizaine d'années. Bon, elle avait quand même bien plus de 80 ans, Anne. C'était l'école qui a été formée, mais ça s'est dissous après. En fait, il n'y a pas de truc constitué. En revanche, bon, c'est une réserve de discussion pour un certain nombre de gens. Alors, l'autre problème qu'on a, puis j'arrêterai là, c'est que si vous voulez, il y a des lectures un peu rapides. Du genre, beaucoup de gens qui font de l'économie sociale et solidaire, j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais qui voient redistribution, échange, marché, machin, et puis bon, voilà, ils font tourner le truc. Ils voient de l'encastrement de partout, alors que pour Polanyi, finalement, c'était pas un concept aussi majeur qu'on croit. Donc voilà, il y a un aspect. On se sert dans l'économie sociale et solidaire d'une façon très pragmatique, pourquoi pas de Polanyi, mais très rapide, pas approfondie, quoi. Ben, si on le faisait, en plus, ça contrarierait peut-être certains dogmes en même temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Mais après, évidemment, il vous faudra lire La Grande Transformation. C'est absolument nécessaire. Mais ça se lit bien. Hein, c'est pas le problème. Qu'est-ce que j'étais en train de dire dans cette longue introduction ? Donc, je disais, pourquoi j'ai pu lire ça ? Donc, pourquoi c'est difficile finalement de le recevoir ? Et pourquoi je suis ici ? Voilà. Donc, je pense qu'il faut remettre le travail en chantier. Ah oui. Donc c'est la question des totalitarismes que j'avais abordé il y a 5 ans. C'est un sujet qui, je crois, quand même assez important. Et c'est là où je ferai une transition par rapport à ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. C'est qu'il y a un mot qui est utilisé tout le temps, ad nauseam, c'est le mot de fascisme. Et notamment si vous traversez le Rhône, là vous allez à Lyon 2. Alors dès qu'un jeune étudiant n'est pas d'accord avec un autre, il le traitera de facho. Alors, en général, ça c'est, on n'y manque pas. Et alors on est facho très vite, si vous voulez. On est facho très 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 vite. Hein. Et parfois c'est, enfin pour des gens comme moi qui ont travaillé sur ce sujet pendant des décennies, c'est quand même un peu un mystère d'avoir des gens qui argumentent n'importe quoi avec n'importe quoi. Alors, dont ce concept de fascisme, on va en parler, on va voir un peu ce que c'est, si vous voulez. Mais bon, il y a des moments où il faut s'arrêter, quoi. Il faut être sérieux quand on parle de ça. On ne peut pas, si vous voulez, sortir ce genre de qualificatif à tort et à travers. D'ailleurs, il vaut mieux pas le faire, parce que le jour où ça va arriver, c'est comme Pierre qui a crié au loup. Alors à ce moment-là, ce jour-là, on dira « c'est un peu le problème. » Donc il faut être sérieux. Mais maintenant, pour vous dire aussi pourquoi j'ai accepté votre invitation, et c'est une... C'est visiblement un événement récent dont je vais parler là. Alors, je suis enregistré, c'est très bien. Voilà, certains de mes amis savent que j'ai été très choqué par cette affaire. Il y a une dame dont je n'ai à peine cité le nom, et donc pour l'instant je résiste en fait à la tentation de vous citer ce nom, et qui donnait un cours dans une université populaire à Louvain, hein, sauf erreur, c'était ça, et je ne vous dis pas plus d'indications là-dessus parce que vous allez tout de suite décrypter, mais simplement elle voulait démontrer que en réalité il y a en économie politique une tradition d'influence de la biologie en fait, et que finalement on essaie de penser l'économie à partir de la biologie. Donc c'était ça sa thèse. Alors c'est une thèse qui est elle n'est pas originale, si vous voulez. À certains égards, elle peut être exacte. Donc, lorsqu'on entend ça, on est un peu, comment dire, on écoute. On écoute tranquillement. Et puis, il y a une sorte de dérèglement qui se produit, un truc un peu dingue. On vous explique que c'est Darwin qui a influencé Ricardo. Et même Malthus. Alors, il y a un petit problème, si vous voulez, dans l'affaire. Problème énorme. C'est que, d'ailleurs, si on lit bien Karl Polanyi, on sait qu'un révérend, le révérend Townsend, ça devait être en 1786, si j'ai le temps pour poser des questions, je pourrais vous en dire, mais lui, effectivement, il y a une pensée biologique du social, ce que le mathématicien Châtelet appelait l'équilibre des crocs et des estomacs, à partir d'une histoire inventée de Robinson Crusoe, je vous en passe, c'est des meilleurs, où on estime que finalement, il peut y avoir un équilibre qui se produit dans la société, par une sorte de système concurrentiel absolu où les faibles sont exterminés par les forts, en quelque sorte. Et donc, ce révérend protestant, vous voyez, les protestants sont des chrétiens un peu durs, pensait que la volonté de Dieu s'exprimait ainsi et qu'il y avait un équilibre sur Terre, parce qu'il y avait ce mécanisme d'autorégulation, effectivement, éco-biologique de la société. Mais il n'y a aucune donnée biologique dans cette affaire. C'est une histoire. C'est la dissertation de Joseph Townsend qui parle d'une dissertation de poules, de chèvres et de renards ou de loups, je ne me souviens plus bien, les uns qui mangent les autres, puis on obtient des équilibres. Et d'ailleurs, cette collègue dont je vous parle était censée avoir lu Polanyi. Donc en fait, elle avait, dans la grande transformation même, de quoi effectivement dire qu'il y avait, dans une forme, si vous voulez, de fantasme de la biologie scientifique, parce que Townsend, ça n'a rien à voir avec la biologie moderne ou évolutionniste à la Darwin, mais voilà, il peut y avoir une pensée biologique du social qui n'est pas informée, en fait, scientifiquement. Mais évidemment, quand on nous dit que Charles Darwin, 1859, influence M. Malthus, qui est écrit en 1798, il y a comme une inversion de la flèche du temps, si vous voulez. C'est le n'importe quoi, tout simplement. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Alors, cette dame est également députée de la Nation. Elle porte le même patronyme que Jean-Jacques. Pour moi, c'était trop, si vous voulez. C'était trop. Donc, je parlais de tabula rasa, mais ne blâmons pas les étudiants. Voici que la fine fleur de notre intelligentsia politique et intellectuelle, parce que ces gens-là ont des prétentions, disent n'importe quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus. Moi, ça m'a effondré. Je me suis dit après, mais je me vois mal critiquer mes étudiants, très franchement. Hein. C'est très difficile de les critiquer dans ces conditions. Le poisson pourri par la tête, disaient les Grecs anciens, les Chinois d'ailleurs le disent aussi. Et donc, on en est là. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Bon. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit le nom de cette dame.
On n'a pas du tout compris.
On n'a pas du tout compris.
On n'a pas demandé de demander.
Je sais, vous êtes une grande délicatesse. Mais je ne sais pas, ce Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman. C'est Jean-Jacques Goldman, ouais. Bon, il faut dire que c'est une perle en or. Alors moi, je fais circuler ça. Tout le monde se rigole comme des baleines, en fait, sur les réseaux. Mais ça reste dans le cercle des initiés, quoi. Mais on a un peu peur quand même de ce qui est en train de se produire. Voilà, donc la tabula rasa, elle est là en fait. Hein. C'est effectivement, j'en parlais tout à l'heure. Bon, bref. Donc c'est le dérèglement du monde, un peu comme disait Amin Malouf, hein, l'académicien d'origine libanaise. On vit dans un truc de ce genre, et bon, ben voilà, il faut supporter, il va y avoir les obscurités de divers ordres qui vont nous accabler pendant encore peut-être plusieurs décennies. Donc. Autant faire le contre-travail dès maintenant. Voilà. Alors, j'ai parlé beaucoup trop longtemps pour poser le problème. Je vois qu'il est 20 minutes là-dessus. C'est quand même pas mal. Du coup, je vais vraiment aller au cœur de l'affaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'ont donné leur email, je vous enverrai le texte en support de mon... Comme ça, ce sera encore mieux. Voilà. Ben, voilà. Bon, OK. Alors, au fond, pourquoi Polanyi a écrit La Grande Transformation et pourquoi il s'est intéressé au fascisme ? Ben en fait, ce qui s'est passé dans les années 30, c'est tout simplement l'écroulement sur elle-même, à la fois des économies capitalistes qui symbolisaient une certaine modernité, bien sûr, à la fois culturelle et économique, hein. Mais c'est un écroulement aussi qui va être guerrier, civilisationnel, moral, humain, de tous ordres. Donc si vous voulez, les intellectuels de la génération de Polanyi, il est né en 1886, il est mort en 1964, hein, bah, ils essaient de comprendre pourquoi tout ça s'est effondré. Voilà. Et voilà, ça c'est la reine de la machine. Donc ils essaient de comprendre ça, en fait, c'est la problématique première, et quand il fera de l'anthropologie économique par la suite, c'est pour avoir une compréhension de l'homme en général, en voyant dans nos sociétés finalement un cas particulier. Hein. Mais au début quand même, la question essentielle, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans un texte de 36, Adolf Hitler, l'Allemagne, on lit l'Allemagne en fait dans le texte, a déclaré la guerre aux gens humains. Donc comment on en est venu là ? Il s'agit de comprendre tout ça. Alors là, vous avez deux hypothèses, en fait. Bon, c'est très large par rapport à mon papier, je vais être obligé de vous en envoyer deux ou trois autres. Mais en fait, il y a deux hypothèses pour comprendre pourquoi les choses ont mal tourné. Et je vous le dis avec la plus grande honnêteté, c'est qu'il y a des gens très bien qui pensaient le contraire de ce que dit Polanyi. À certains égards, c'est... On peut presque articuler tout ça, en fait. Le premier, c'est son frère. Michael Polanyi, alors, il n'est pas très connu en France. C'est un très grand chimiste qui a failli avoir le prix Nobel, puis qui a laissé tomber pour faire des sciences sociales, et qui est devenu un philosophe de premier ordre, à mon avis, beaucoup plus original que Hayek, et que Hayek a pompé, en fait. La théorie de l'ordre spontané s'est pompée à Mihaly Polanyi sur les ordres polycentriques. Mais voilà, c'est en passant... et vous pouvez trouver ça dans un ouvrage qui s'appelle La logique de la liberté. C'est le petit frère de Polanyi, c'est tout sauf un imbécile. Sauf que les deux savent très bien ce qui s'est passé durant le communisme de guerre, que ça ne marche pas, pour le dire très, très clairement, la planification impérative. Alors du coup, Polanyi, lui, va évoluer vers une sorte de, on va dire, de socialisme de la liberté. Et Michael, son frère, lui, va devenir un libéral radical. Ah, c'est un peu ça qui va se passer dans la famille. Bon. Et d'ailleurs, à des moments, son frère l'accusera d'avoir basculé dans le soviétisme, ce qui est d'ailleurs assez exact, parce que Polanyi va écrire de grosses bêtises. Il a cru qu'en 1938, les procès de Moscou étaient réels, enfin que les gens avaient réellement commis ce dont Staline les accusait. C'est un aveuglement tout à fait remarquable. Alors qu'en 1922, lorsqu'il y a eu les procès contre les socio-révolutionnaires, Polanyi a bien compris que c'était le montage, en fait. Donc c'est pour vous dire que Polanyi n'a pas toujours été lucide et que son frère avait parfois de bonnes raisons de penser ce qu'il pense, en fait. Voilà, c'est compliqué. Quand on fait de l'histoire, il n'y a pas le noir, le blanc, le fasciste, l'antifasciste. Malaparte était fasciste, il devient communiste, et tout ça. C'est compliqué quand même, faut regarder de près. Puisque quelqu'un est là dans la salle, voilà, les gens me disaient Antoun Saadé, c'est un pur fasciste. Moi, j'ai regardé de près, c'est plus compliqué. Voilà, c'est très, très compliqué. Voilà. Ça, c'est les querelles un peu de l'histoire des idées, mais pour ce qui est du Moyen-Orient. C'est pour vous dire que les grilles de fascisme, on les applique très vite. Quoi, hein, c'est... Bon, voilà, donc je reviens là-dessus. Donc, l'hypothèse de Michael Polanyi, qui a été reprise d'ailleurs par Ernst Nolte, hein, vous avez peut-être entendu parler, c'est un historien allemand, qui a fait un bouquin qui s'appelle « La guerre civile européenne ». Il dit « Mais finalement, si la bourgeoisie allemande s'est réfugiée dans le nazisme, c'est qu'elle était terrifiée par le programme d'extermination de classe des communistes. » Donc ces gens-là ont eu peur, et finalement, Hitler les a protégés. Et donc ici, une série de choses en disant « Mais il y avait les coulacs, mais il y avait les discours de Zinoviev, de Kamenev, qui... Il disait qu'on allait exterminer 10% de la population russe pour construire le meilleur des mondes. Tout ça, d'ailleurs, était exact, en fait. Hein. C'est clair. Bon. Donc, vous voyez, en gros, dans cette optique-là, le fascisme, c'est simplement une réaction au communisme. Hein. Le communisme qui est, en fait, notamment acclimaté à la Russe, par l'espèce de marxisme allemand, social-démocrate, bien élevé, bien comme il faut. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est des gens comme Lénine et Staline. Ces gens-là ont fait peur, en fait, à la bourgeoisie. Et c'est comme ça qu'il y a eu un choc des totalitarismes. Autrement dit, l'idée commune à Michael Polanyi et Ernst Nolte, c'est de dire, mais finalement, s'il n'y avait pas eu de communisme, il n'y aurait pas eu de nazisme. En gros, c'est ça. Ce qu'on a appelé la querelle des historiens, bon, truc compliqué. Alors Polanyi, lui, il est bien conscient de ça. D'ailleurs, je vous dis, avec son frère, ils s'écrivent des lettres, mais ils ont été fâchés pendant un moment. Son frère lui a dit à un moment, mais toi, t'as flirté avec ces gens-là. Il a dit, non, mais moi, j'ai jamais donné dans The New Russian Islam. C'est comme ça qu'il appelait ça le soviétisme. Il y a des gens qui servent de Polanyi maintenant, ils devraient méditer ce genre de choses. Non, non, l'islam russe, ce n'était pas pour moi, dit Polanyi. C'est à moitié vrai, d'ailleurs. Il a quand même déconné à un certain moment, à la fin des années 30. Bon, il s'est ressaisi après, si vous voulez, mais bon, ça peut se comprendre. Voilà, donc il y a deux hypothèses. Et du coup, il y a cette phrase essentielle de la grande transformation qu'il faut méditer. Parce que même s'il y a des éléments de vérité dans ce que disent Mihaly, Polanyi et Ernst Nolte, je crois que, si vous voulez, la causalité essentielle, c'est celle-là. Alors je la lis. Pour comprendre le fascisme allemand, nous devons revenir à l'Angleterre de Ricardo. Alors ça, vraiment, c'est gros truc. Alors c'est sûr que là, quand on fait l'histoire de la pensée, il ne faut pas faire comme la nana qui a le même matronyme que Jean-Jacques. Il faut voilà, ça devient un peu compliqué. Alors l'idée, si vous voulez, c'est la suivante, et je fais rapidement parce que bon, je préfère qu'on débatte ensemble, en plus on n'est pas nombreux. L'idée, si vous voulez, c'est que au 19e siècle, hein, le monde occidental a été l'objet d'une expérience, alors qui s'est construite évidemment, il y a des déterminations de hasard et de nécessité visant à transformer ce qui n'était pas des marchandises en marchandises. Autrement dit, la marchandise qui, au fond, est quelque chose qui est produit pour être vendu, hein, qui est conçu en vue de déboucher sur le marché. Bon, d'abord, c'est quelque chose de très ancien. Je veux dire, le petit marché aux légumes ou aux pois chiches, il existait dans la Babylone archaïque, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une chose que de dire qu'il y a eu des petits marchands, des marchés locaux. C'est autre chose que de dire, maintenant, nous allons faire comme si la terre nous appartenait, comme si c'était au fond une simple création de l'homme. Nous allons la traiter comme une marchandise. Nous allons faire comme si, effectivement, elle était produite pour être vendue, et on va en faire un usage souverain. Parce qu'en fait, la propriété bourgeoise, pleine et entière, parce que c'est ça, en fait, consiste à dire que c'est ma chose. Et finalement, pour Polanyi, c'est un acte d'une certaine violence, culturellement tout à fait significatif, qui n'a pas plus de signification que quand les arapèges de Margaret Mead disent « Nous appartenons à la terre ». Au fond, il n'y a pas plus de vérité dans un cas que dans un autre. On peut dire la nature, c'est un don de Dieu ou de la nature. La nature, voilà, c'est un don de Dieu ou de la nature. Enfin, voilà, ça peut tourner en rond. Mais dire qu'effectivement, on peut faire un usage marchand, c'est un problème. Et il dit, mais à partir du moment où on admet ça, quand on y réfléchit bien, c'est la subsistance de l'homme qui est en danger, la sécurité des populations. Il dit, mais voilà, les sols seraient souillés, la défense nationale, il le dit comme ça d'ailleurs, serait en danger, l'environnement de l'homme ne serait plus habitable. Il dit, finalement, on se rend bien compte qu'il y a une contradiction. Alors, c'est des mots, parfois, qui peuvent avoir une consonance heideggerienne, pardonnez-moi, il n'est pas ça en tête, hein, ça se fait autre chose, mais voilà, il dit, on peut plus habiter le monde, en fait. Voilà. Il y a une contradiction entre l'amélioration des processus productifs pourvoyeuses de profit et tout simplement l'habitation du monde. C'est-à-dire que Polanyi, en fait, dans ce bouquin de 44, il dit un truc très simple, il dit, le monde n'est pas une marchandise, en fait. C'est simplement ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, dans certains milieux un peu informés, il avait une certaine popularité. Voilà. Alors, en plus, il y a une autre idée qui est derrière tout ça. C'est que si jamais on traite des marchandises qui ne sont pas des marchandises, comme des marchandises, on va avoir des effets pervers. Alors, c'est vrai, là, le raisonnement, il est génial. Parce qu'en général, les libéraux nous disent, surtout pas de réforme sociale, l'ordre du marché est parfait, c'est l'aboutissement d'un processus évolutionniste compliqué. Si vous touchez dans la mécanique du marché, vous allez faire que des désastres. Donc, comme disait Friedrich von Hayek, les mystères du marché nous dépassent. Alors, je traduis un peu ça. Surtout, ne faites rien. C'est ça, en gros, l'idée. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Les libéraux sont des optimistes, en fait. C'est optimiste au sens 18e siècle du terme. Hein. C'est l'optimum. Et Polanyi dit le contraire. Il dit, ben non, en fait, c'est pas ça. Les effets pervers, c'est quand on va se mettre à traiter des choses qui ne sont pas marchandises comme des marchandises. Prenez l'exemple du travail. Ah, il y a des économistes qui ont découvert parfois que le prix du travail, c'était pas le prix de la tomate. Pourquoi? Parce que dans le prix de notre travail, on incorpore, Ricardo en était pourtant conscient, hein, mais après, on a oublié un peu ça. On incorpore des données évidemment physiologiques, des données culturelles, des données dignité, qui font que la fluctuation du prix du travail sur le marché, ça ne peut pas avoir le même sens, les mêmes conséquences que celle du prix de la tomate. C'est à peu près évident. En fait, on appelle d'une certaine façon au travail ce qui est l'homme. Mais c'est simplement une appropriation culturelle, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce terme, dans ce monde compliqué. C'est vraiment une façon de voir les choses, une Weltschauung, hein, de l'homme, voilà, qui s'aliène effectivement dans le travail. Donc en réalité, et ça Maurice Doble, l'économiste marxiste, l'avait expliqué, dès que les travailleurs vont un peu s'organiser à la fin du 19e siècle, les taux de salaire ne vont pas baisser comme avant. Et les reprises économiques périodiques du capitalisme qui se faisaient avec l'écrasement du travail, l'écrasement des conditions de vie, ne sont plus possibles, en fait. C'est ça qu'on était, à la fin du 19e, dans une stagnation économique prolongée, parce que le facteur travail ne servait plus, en fait, de variable d'ajustement à l'autorégulation capitaliste. Et c'était un marxiste même assez stale, en fait, il faut le dire, Boris Doble. Mais bon, c'est intéressant ce qu'il écrivait malgré tout. Et maintenant, la monnaie. Alors, la monnaie... Alors là, vous allez me dire, mais la monnaie, c'est quand même une marchandise. Ah, quand même. De Nicolas Orem, 1360, à Ibn Khaldoun, 1398, on voit finalement la monnaie comme ça, avec des idées parfois plus subtiles chez les deux penseurs, mais je mets ça de côté. Mais l'idée, c'est que quand même, le prince, le politique, ne peut pas disposer de cette affaire-là. Elle lui échappe, en fait. La monnaie, c'est l'or. L'or est donné par la nature. Il est intrinsèquement rare. Si vous jouez avec la rareté de l'or, vous allez jouer, finalement, avec la rareté des marchandises. Alors, ces marchandises ne sont pas indéfiniment extensibles. Et si l'étalon des valeurs est perturbé, bah, vous allez faire de l'inflation, etc., etc. Bon, en fait, en réalité, nous dit Polanyi, qui se met à l'anthropologie, alors en 44, on voit un peu, il entrevoit la chose, mais dans son bouquin de 57, c'est très très clair. Et il dit, ben non, la monnaie a pu exister à une époque où il n'y avait pas de marché, en fait. Alors là, ça devient assez compliqué. Vous allez dire, ben à quoi ça servait ? Ben la monnaie, ça sert à payer des dettes. Si vous tuez quelqu'un, vous allez vous procurer ces symboles rares, et d'ailleurs que les sociétés, dont les sociétés organisent la rareté, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les obligations sociales, donc vous allez payer, c'est-à-dire étymologiquement apaiser, en fait, la relation. Hein ? La monnaie, ça sert à ça, ça sert à régler des dettes. Alors ça peut être le prix de la fiancée, pardonnez-moi, mesdames, mais... bah oui, comme disait Lévi-Strauss, une société, c'est l'échange des femmes, des mots et des biens. Bon. Et quand on échange les biens, il faut en contrepartie donner le souffle de vie. Ben oui, parce que c'est la femme qui donne la vie. Si un groupe social se défausse d'une femme, c'est un problème pour la reproduction. Et donc, la monnaie, c'est le souffle de vie qui permettra effectivement de capter d'autres femmes par la suite.
On va couper ça au montage.
Ben non, il ne faut pas couper, parce que c'est une réalité anthropologique. C'est comme ça, et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. La monnaie aussi, et ça on le voit bien quand on voit les fondations des temples gaulois, l'archéologie contemporaine le montre, la monnaie, ça codifie les relations des hommes avec les dieux. Ah, c'est très important aussi. L'activité de rationalisation de l'homme, contrairement à ce qu'on a pu penser, en fait, et ça, Jean Bottero, il le montre très bien dans son livre magistral sur la Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux, et bien, il y a des formes de rationalisation des échanges entre l'homme et le divin, et ça passe aussi par la normalisation des sacrifices et ce genre de choses, et notamment ces pièces d'or qu'on trouvait dans les temples ou autres. Il y a d'ailleurs une théorie qui avait été faite sur l'origine sacrée de la monnaie en 1923. Polanyi connaissait tout ça, en fait. Et voilà. Alors, le marché s'est emparé, en fait, de ça. Évidemment. Mais à l'origine, c'est pas une marchandise. Et si vous voulez, si, par exemple, le travail correspond à l'homme, si, par exemple, dans l'exemple des marchandises fictives, la terre correspond à la nature, eh bien, ce qui correspond à la monnaie, c'est la société elle-même, c'est les obligations. Et puisque je suis au Simone, vous savez que le sous-titre de l'enracinement, hein, c'était déclaration des obligations envers l'humain, je crois que c'était ça. C'est vrai que anthropologiquement, vous voyez, pour ça qu'il ne faut pas se vexer par rapport aux femmes. Mais si vous allez voir un étudiant du monde bleu en face, il va dire que la société, à l'origine, c'est une société de fascistes. Parce qu'elle est fondée sur l'obligation. Obligation de rendre, de donner, de recevoir. Alors, Polanyi, il ne le dit pas comme ça. Mais en fait, il lit des littératures anthropologiques qui sont très graves. Sans équivoque, pardon, je veux dire, sur le sujet, en fait. L'homme, c'est simplement un tissu d'obligation réciproque, en fait. L'idée d'un homme qui se détermine souverainement, qui va déterminer, je ne sais pas moi, qui va s'auto-déterminer totalement, je ne fais pas des... Hein. Bon, tout ça, en réalité, c'est de l'idéologie petite bourgeoise. C'est contemporain. C'est-à-dire que, à mon avis, je vous le dis très franchement, on aurait du mal à penser l'idéologie du genre sans la rage que décrivait Engels du capitaliste compétitif pour qui la seule chose qui existe, c'est son intérêt privé et son autodétermination. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors celui qui dit ça, et qui en ce moment est harcelé de toutes parts, c'est Jean-Claude Michéa, mais il a raison. Il a raison. Ah. Il faut lire le dernier truc qu'il a fait. sur la gauche Orwell et la double pensée. D'ailleurs, se dit en passant, je pense que, si vous voulez, Polanyi et Orwell sont des penseurs tout à fait complémentaires, intéressants, nécessaires et autres. Maintenant, du point de vue du système politique et économique, en France, bon là, il y a une revue que je viens de recevoir, mais il y a une citation de Jaurès, c'est très exactement le modèle de socialisme que Polanyi développe en 1922. Oui, donc alors en France ça passe par d'autres médiations, mais voilà. Donc non, l'homme n'est pas autodéterminé, non, la société existe. Alors, c'est d'ailleurs assez marrant parce que Polanyi dit, mais finalement, pour les libéraux, la société n'existe pas, il n'y a que l'individu qui s'autodétermine. Ah, oui, ça fait très gauche progressiste libérale moderne ça. Hein. Il dit finalement, les fascistes et les socialistes ont un truc en commun. Ils reconnaissent la réalité de la société. Mais là où les fascistes, en fait, à partir du moment où ils reconnaissent ça, sont seulement dans la glorification du pouvoir et les rapports de force, les socialistes essaient de construire ce qu'ils appellent la liberté dans une société complexe. Sachant que, justement, on n'est pas des monades autodéterminées, autodéterminantes. Donc, c'est ça, et je pense que Micha a raison. C'est-à-dire la pensée socialiste, elle est totalement irréductible à la gauche progressiste contemporaine. Elle n'a rien à voir. C'est pour ça que les gens qui disent... Alors, c'est la gauche. Oui, c'est peut-être la gauche, mais... Eh ben voilà. La gauche, comme le disait Marx et les autres, regardez un peu ce qu'écrit Marx, il ne parle jamais de gauche et droite. En revanche, gauche et droite, c'était des divisions qui étaient internes au parlementarisme bourgeois. C'est tellement vrai que Tocqueville était de gauche. Ça fait un peu rire, mais il avait écrit un truc qui s'appelle La Nouvelle Gauche. Vous vous rendez compte. Donc, ça n'a rien à voir, effectivement, avec les idéaux socialistes tels qu'ils étaient constitués au XIXe siècle. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Alors, Lordon, lui, qui appelle les gens à l'insurrection tout en restant bien calfeutré chez lui, hein, faut voir qu'il y a un problème de responsabilité d'intellectuel. Il est un intellectuel irresponsable, ça c'est sûr, mais il a sûrement rien à voir avec le socialisme. Ça, c'est clair, net et précis. Je tiens quand même à le dire. En passant, c'est polémique ce que je raconte, mais vous savez, c'est vrai en plus. Bon, alors. Au fond, c'est là où je ne développerai pas plus, ce que dit Polanyi, c'est que eh bien, les effets pervers qui ont accompagné le développement du marché ont impliqué, effectivement, des réactions. Alors évidemment, la réaction, il faut la comprendre en deux sens. Comme le disait le très progressiste Bainville, non, je plaisante. En plus, c'est une préface à l'édition de Mussolini, donc. C'est juste une blague ce que je raconte. Mais il disait un truc très juste. Il disait, oui, non, mais le fascisme, c'est la réaction, mais le réactif, c'est ce qui vit. C'est marrant, hein ? Oui. Non, ma ville est un esprit subtil. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il le dit très bien, Polanyi dit, mais au fond, il y avait deux solutions. Soit si on veut que la société persévère dans son être, pour faire le spinoziste de salon, on va dire, eh bien, prenons des solutions autoritaires, hein, c'est-à-dire que le fascisme, c'est le capitalisme sans la démocratie, en gros, c'est ça. On va résoudre le problème de cette façon-là, avec une planification qui sera au service des firmes, sûrement pas au service de la société, j'y reviendrai un peu rapidement tout à l'heure. Donc, ça, c'est la solution Benito, Adolphe et tout ça. Enfin, bon, voilà, on voit bien un peu le. Soit on fait, non pas une grande transformation fasciste, mais une grande transformation démocratique. Ou cette fois, si on fait de la planification, eh bien, ça sera au service de la société tout entière. Mais dans les cas de figure, il y a grande transformation. C'est-à-dire qu'il y a rupture par rapport à la société de marché. En tout cas, ce qu'on peut appeler, et d'ailleurs c'est marrant, il appelle ça la nouvelle économie, l'économie de la fin du 19e. C'est la première économie mondialisée. Lisez ce que raconte Keynes sur commander le café par le télégraphe, c'est le réseau, tout est là en fait. Simplement, nous c'est d'aller plus vite. Mais il y a tout, il y a les moyens de télécommunication, il y a les premières migrations importantes, il y a l'ouverture réciproque des économies, il y a des flux de capitaux importants. Vraiment, et d'ailleurs vous savez quoi ? nos idéologues du marché étaient tellement persuadés que la société de marché, début 20e, avait abouti à un état extraordinaire, qu'ils disaient « la guerre est impossible, l'interconnexion des économies est trop grande ». C'est exactement ce qu'ont dit un certain nombre de crétins pour la Russie et l'Ukraine.
Hein. Le doux commerce.
Interprétation des économies, j'ai dit.
Non, je disais, ça faisait référence au doux commerce de Montesquieu.
Oui, mais là, bon, c'est vrai. Mais là, ouais, et, bon, puis comme disait Voltaire, et nos vins, au lointain, enivrent les sultans. Oui, mais il y a cette idée, si vous voulez, que la guerre est un faux calcul. Et ça, Polanyi s'en moque, en fait. L'idée que la guerre est un faux calcul d'affaires, alors il cite un Normal Angel, des gens comme ça, Toynbee, le grand optimiste, non, on fera pas de guerre, parce que tout simplement, ça rapporte pas, si vous voulez. Et vous avez des gens qui font des commentaires à la radio tous les jours. Moi, j'aime bien le colonel Goya, il fait des analyses militaires intéressantes, mais il était tellement corrompu par cet esprit-là qu'il nous a dit qu'il n'y aurait rien, que maintenant, il dit qu'il faut qu'il y ait une guerre qui... jusqu'au bout, jusqu'à l'extermination d'un des adversaires. Il est allé jusque-là, si vous voulez. Et en fait, lui qui a fait un bouquin génial qui s'appelle « Les vainqueurs sur la guerre de 14-18 », il n'a pas compris du tout comment les guerres pouvaient naître. Enfin, c'est extraordinaire. Ce qui prouve à quel point, quand il y a une imprégnation idéologique, on ne comprend plus rien. Même si on est un grand savant d'art militaire, le problème, il n'est pas là. Non, les gens en 13 pensaient qu'il n'y aurait pas de guerre. Et d'ailleurs, vous demandez... Même l'ancien Kaiser disait « Mais j'ai pas voulu ça. » Personne n'a voulu ça. Et je suis sûr que Poutine, il dira ça. C'est ça. Voilà. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, Polanyi dit « Mais la pensée politique était à son niveau le plus bas, en fait. » Et ce qui nous a mis dans cette nullité de la pensée politique, ben, c'est tout simplement... l'idéologie de la société de marché qui nous a inventé un monde qui tout simplement n'existe pas, en fait. Voilà. Un monde qui nie la politique alors que la politique, elle existe. Voilà. C'est... Oula, oh mon Dieu. Peut-être fait un désastre, là.
C'est bon,
tout fonctionne. Bon. Des choses bien compliquées, après. Alors, maintenant... Maintenant, qu'est-ce que c'est que le fascisme ? Je te l'ai dit rapidement, c'est le capitalisme sans la démocratie. En gros, pour le faire simplement, c'est ça l'affaire. Je cite Polanyi. Alors, puisque je suis dans un endroit très Simone, j'ai quand même vous dire que, et je suis content d'avoir fait ça, il y a la grande transformation qui existe en français, mais avec d'autres, évidemment, nous avons traduit les essais de Karl Polanyi. Et à l'intérieur des essais de Karl Polanyi, il y a ce qu'on appelle la période chrétienne de Karl Polanyi. Voilà. Et donc, il faut absolument lire les essais. Je pense que... Il y a même deux textes que j'ai relus avant de vous voir qui s'appellent... Il y en a un qui s'appelle, je crois, Marx et la sociologie chrétienne, et l'autre, c'est Christianisme et vie économique. Carrément, voilà. Il faisait partie d'un mouvement qu'on appelait personnalisme. Hein, voilà. Bon, je pense que ça peut en dire certains pour vous. Et puis, il faisait partie de ce groupe de la Christian Left. Hein, et à l'intérieur de ça, voilà, il a produit un certain nombre de réflexions. Et à mon avis, son article le plus intéressant de l'époque s'appelle « L'essence du fascisme ». Qu'il a écrit durant cette période de Christian Sociology. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'un jour je pourrais venir vous faire un exposé typique là-dessus, on ne concentre que là-dessus, d'ailleurs on pourrait faire que ça. Ça fait quand même un bouquin qui fait 450 pages, près d'une centaine de pages, hein, sur la Christian Sociology, c'est pas rien. Alors, si vous voulez, après, quand il écrit La Grande Transformation, il n'y a plus de référence du tout. C'est un propos qui est totalement laïcisé, mais les mots qu'il a fait graver sur son cercueil montrent que quelque part il était resté croyant, à mon avis. Mais bon, alors ça c'est. Mon Dieu, si vous étiez vendeur de journaux, je vous aiderais à vendre votre journal. C'est un poème d'Attila Joseph, le poète hongrois. mon avis, quelqu'un qui fait ça. Voilà, donc il n'était plus aussi militant dans ces structures-là. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale a quand même tourmenté beaucoup les gens, en fait. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà, à mon avis, il y a quelque chose de la foi qui était resté. Alors, maintenant que j'ai très, très rapidement défini en gros ce que c'était que le... Enfin, le fascisme, attendez, je vais quand même vous donner une petite citation. Ouais, parce que alors, ça c'est intéressant. Vous me pardonnerez, mais ça me fait penser à la Syrie, à la Chine. Vous allez voir le truc. C'est un peu violent, vous allez me dire ce que je dis, mais quand même. Bon, on sait que. Les fascistes se proclament anticapitalistes, souvent. Troisième voie, patati patata. Bon. Alors voilà ce qu'il dit dans un texte, enfin en anglais, bon, qui est assez proche des thèses de Essence of Fascism. En effet, le fascisme n'est pas par nature incompatible avec quelques fausses réformes du capitalisme, et c'est cela peut-être qui le rend plus dangereux. En effet, il ne peut permettre et entreprendre cette réforme du capitalisme, parce que pour lui, ça reste le capitalisme, en fait. Il a raison. Que dans la mesure où l'abolition de la démocratie pave la voie à une centralisation absolue du pouvoir entre les mains d'un petit groupe aux intérêts particuliers qui en font un usage collectivement. Là, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce petit groupe, il condense, en fait, les intérêts politiques et économiques qui sont totalement concentrés. Et ça fait réfléchir, en fait, sur la structure de certaines économies, cette affaire-là. En tout cas, la tendance fasciste de l'économie, il la définissait comme ça. Et il dit, ben voilà, c'est qu'il y a eu un échec de la régulation intentionnelle de l'économie. Ça, c'est le cycle classique des affaires. Et c'est vrai que dans le cadre des économies totalitaires, on va faire une régulation intentionnelle de l'économie. Mais attention, et en plus, ça l'historiographie allemande va le confirmer, les formes de planification du Reich, il faut appeler les choses par leur nom, étaient au service précisément des grandes firmes. Si vous voulez, c'est, comment dire, le fascisme, c'est la conscience collective du capital, en fait. On passe de ce que... C'est pour ça que Marx ne pouvait pas imaginer ça, du chaos de la production capitaliste, en fait, l'anarchie, comme il le disait plus précisément, à une conscience très très forte de cette affaire-là. Alors, idéologiquement, il y a des passages, moi je ne peux en parler ici, parce que c'est peut-être trop polémique, mais... du point de vue intellectuel, son idée, c'est que, en fait... Le fascisme ne peut triompher vraiment. C'est normal, parce que extirper l'idée de liberté, c'est quand même compliqué, en fait. C'est très compliqué. Donc, ça ne peut fonctionner que s'il y a une transformation anthropologique. En gros, il faut changer la nature humaine. Pour rendre, en fait, une société, une économie fasciste durable, il faut changer ça. Et il dit, mais... Alors, il est d'accord avec Hitler sur ce point, ça va durer des générations. À produire un homme nouveau, à prendre du temps, c'est compliqué. En général, tous les totalitaires aiment bien produire des hommes nouveaux. Et je vous lis un passage, alors cette fois de l'essence du fascisme, 1935. Le titre du livre collectif, je vous dis, c'est Christianity and Social Revolution, qui n'a pas été traduit en français, en fait. Donc c'est un essai qu'à l'intérieur de ça. L'idée que le bolchevisme scelle la fin de la personnalité est presque un cliché de la littérature bourgeoise. C'est vrai. Le fascisme se désolidarise totalement de cette critique superficielle. Sa volonté de détruire le socialisme est trop bien implacable pour se permettre d'utiliser dans le combat des accusations mal ciblées au point d'en devenir inefficace. Il s'est consacré sur un véritable argument, le socialisme et l'hérité de l'individualisme. Et c'est vrai que Marx disait on doit construire une autre économie pour l'épanouissement et l'émancipation de l'individu. C'est parfaitement exact, en fait. Hein. C'est le seul système économique du monde moderne dans lequel la substance de l'individualisme peut être sauvegardée. C'est-à-dire qu'en fait, Polanyi nous dit, mais dans cette crise du capitalisme, il le dit à d'autres moments, il y a quelque chose comme l'individu judéo-chrétien, et c'est ça que l'hitlérisme veut liquider. En fait. Voilà. C'est cette idée-là. Donc au fond, le fascisme, de ce point de vue-là, est un utilitarisme absolu. Hein. C'est-à-dire tout va être soumis au projet de la totalité, donc relativement à l'utilité globale. Le fascisme est radicalement anti-individualisme, mais bien évidemment, l'individu dont Polanyi parle, et c'est normal, c'est un personnaliste, entre guillemets, mais ça en France, il y a aussi une tradition de ce genre, l'individu dont il est question ici n'est autre que la personne, et donc la personne, ça renvoie à la fois à la transcendance et au tissu des relations, si vous voulez, qui dépasse de très loin la sphère économique. Bien. Alors, transformation anthropologique, vous avez vu quand même l'affaire. Il faut quand même aller très très loin. Ah, un extrait d'un discours d'Hitler, cité dans ce même essai, sur les fondements du national-socialisme. Ah, je l'ai loupé cet extrait. Bon, en gros, si vous voulez, Hitler dit « La propriété privée et la démocratie sont incompatibles. Il faut choisir. » Düsseldorf, 1934. Voilà. Ah ben parce que si, ah ben pourquoi ? C'est-à-dire que si vous voulez, à partir du moment où il y a la démocratie, il y aura des volontés d'interférer avec la propriété privée. Parce que le problème des parlements démocratiques, c'est qu'ils sont l'émanation du plus grand nombre, qui ne sont pas des propriétaires, et donc ils vont vouloir légiférer et faire un attentat, en fait, au droit de propriété. Donc si je veux sauvegarder la propriété privée, je dois liquider la démocratie. Je fais partie des gens qui pensent que cette séquence de la pensée hitlérienne n'est pas absurde. En tout cas, pour l'époque, c'était très juste. C'est-à-dire, Polanyi disait, bah oui, effectivement, c'est clair que... C'est clair qu'il faudra faire des réglementations, des nationalisations et autres, c'est clair. Donc, on va atteindre la propriété privée, mais on trouve ça normal. Sauf que les Italiens trouvent ça anormal. C'est ça la nuance, si vous voulez. Mais on est tous d'accord sur ce point. C'est marrant, hein. Mais ils pensent comme ça. Et donc voilà. Bon, là, il y a des choses trop... Ouais, je ne veux pas... Alors, si vous voulez, il y a une autre façon de faire, évidemment, et ça, c'est ce que j'appelle le post-fascisme. Le post-fascisme, ça consiste à prendre acte que ça n'a pas marché, à recycler les idéologues du Reich dans la construction européenne. Ça a été fait. On le sait. Tout le monde le sait, en fait. Personne n'ose le dire. Et puis voilà. Donc en fait, l'idée c'est. Polanyi dit le fascisme rend la révolution impossible. C'est la révolution qui met fin à l'idée de révolution, à la possibilité de révolution. Il y a d'autres façons de faire en fait. Il y a d'autres façons de faire pour empêcher ça. On l'a fait à mon avis. C'est-à-dire, pour moi, je suis très critique des constructions européennes, c'est un truc antidémocratique par excellence qui empêche toute alternance possible en fait. Et c'est rigoureusement bien fait. Et je vais vous dire, j'ai écrit ce papier en l'honneur d'un libéral radical. Ça va vous étonner. Il s'appelait, parce que malheureusement il est mort trop jeune, il s'appelait Walter Ostwald. C'était le petit-fils de Walter Hoyken. Ça vous dit peut-être quelque chose, Walter Hoyken. Walter Hoyken, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelait l'ordo-libéralisme. Bon. Et donc, on avait des discussions assez passionnées avec Walter, vous imaginez un peu l'affaire. Hein. Et il me dit, mais en fait, l'économie sociale de marché allemande, ça n'a, enfin, à l'origine, telle qu'était voulue par les intellectuels ordolibéraux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Parce que, en fait, leur idée, c'est que, et quelque part, vous voyez, des gens aussi libéraux que Hoyken, aussi socialistes que Polanyi étaient bien conscients de ça. Si on ne veut pas que la démocratie soit perturbée, il faut empêcher la concentration des firmes. Il faut empêcher le pouvoir du capital. Il faut que le pouvoir du capital se dissolve dans la concurrence. Soit on pense que c'est pas possible, c'est ce que je crois. Soit on pense que c'est possible et on fait de l'ordolibéralisme. Mais du grand-père Eucken au petit-fils Oswald, il y avait cette idée, en fait, que la démocratie est menacée par la concentration du capital. Et il n'y aurait pas eu de nazisme s'il n'y avait pas eu ça, en fait. Voilà. C'est, on oublie un peu tout ça. Hein. Mais c'est la vérité. Et pourquoi Walter Oswald a écrit en français, d'ailleurs, un petit bouquin. Il dit, mais moi, comme Allemand, je n'ai pas le droit de voter, donc je demande aux Français de voter pour les Allemands et voter non. Alors, de la part d'un libéral radical, c'est étonnant. Il était copain avec une autruche intellectuelle qui s'appelle Cohn-Bendit. Et alors, il a une discussion avec Cohn-Bendit. Il lui cite. Alors, son argument à Walter était imparable. Il disait, le libéralisme, c'est la séparation des pouvoirs. L'Union européenne, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est un système liberticide, dangereux. Bon, de toute façon, un système où on réglemente la taille des mangeoires pour asseoir la bonne concurrence, c'est déjà un truc qui fait problème, si vous voulez. C'est déjà un monstre bureaucratique, pas grand-chose à voir avec les libéraux raisonnables et sérieux. C'est à peu près clair. Il y a un truc qui ne va pas, en fait, dans leur tête, je pense. Et ce monstre bureaucratique, ben, ça lui faisait peur. Mais il avait raison, ça me fait peur aussi. Je vous le dis très franchement. Et alors, évidemment, Walter était docteur en philosophie, il ne se connaît pas comme Cohn-Bendit. Si c'était vrai, ça se saurait. Et puis alors, il est à court d'arguments, en fait, le bon Cohn-Bendit. Et lui dit, mais pourquoi tu vas voter alors? Mais dis, tu comprends, parce que c'est l'Europe. Il dit, mais alors, tu pourrais voter pour n'importe quoi. Du temps que c'est l'Europe, bah... Tu votes, bah, allez, ah, ouais, c'est l'Europe, il faut faire l'union entre les peuples et tout ça. Ah ouais? Ça fait un peu peur parce que, si vous voulez, je veux pas dire que ce genre de raisonnement ça évoque les heures les plus sombres de notre histoire. Mais, bah oui, quand Lucien Robatet il fantasmait devant Hitler, c'est parce que. L'Allemagne, c'était la modernité, c'était la puissance, c'était la voie à suivre. C'était Robatet qui était un fasciste absolu. Hein. Il était antipatriotique. Il disait que les nations devaient se dissoudre dans l'Europe hein, et que l'Europe devait être allemande. Lucien Robatet, dans Les Décombres, est un européiste accompli. Je lisais, vous verrez. Ah bah oui. C'est compliqué, hein, l'histoire intellectuelle. Il faudrait peut-être que la nana qui a le même patronyme que Jean-Jacques y réfléchisse aussi. Ça serait peut-être une bonne idée. J'avais un ami qui voulait faire un colloque sur l'européisme, sur fascisme et européisme. Ah, c'est clair. Si vous lisez le politologue que tu connais bien, Gilles Delannoy, il a écrit un livre qui s'appelle « La nation contre le nationalisme ». Et il dit, mais en fait, si on analyse bien le nazisme, c'est pas un nationalisme au sens ordinaire du terme, c'est une idéologie impériale raciale. C'est différent, en fait. C'est pas du tout la nation politique que défend Marcel Mauss ou Jean Jaurès. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu'alors, autre chose, la dame dont on parlait tout à l'heure, elle lit Polanyi, elle dit que le patriotisme, c'est du fascisme et tout ça. Mais en fait, non, Polanyi défendait le patriotisme, il défendait la nation politique. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris au film. Il n'y a pas simplement que la genèse de l'économie. Il y a cette idée-là, si vous voulez. Tous ces penseurs-là, hein, je dis de Mauss à Polanyi, étaient des théoriciens tout à fait positifs de la nation politique. Et parce qu'ils ont pratiqué, en fait, le racisme allemand, le national, enfin, l'impérialisme racial allemand. Ils savaient bien qu'ils avaient fait affaire à toute autre chose que ce qu'il y avait en tête, même dans ces dévoiements impériaux de la grande nation, la Napoléon. C'était radicalement différent. Et il faut bien comprendre ça. C'est autre chose, le nazisme. Voilà. Ce n'est pas réductible. C'est autre chose que le nationalisme. En fait, ça n'a rien à voir, de toute façon. Bon, il faut le comprendre. Bien, enfin là, en tout cas, je parle du nazisme, hein, parce que, comme le dit Polanyi, le nazisme est un fascisme radical. Mussolini, c'est un petit camarade, c'est un petit joueur par rapport à tout ça. Voilà, donc, la conclusion que je ferai de cette intervention trop longue et quelque part décousue, qui a duré plus d'une heure maintenant, c'est de dire, petit 1, effectivement, il y a eu l'écroulement d'une première société de marché. On a eu quand même un écroulement en 2008, assez remarquable. Là, on a vécu des sauvetages et des bricolages de du nouveau capitalisme total qui n'est plus totalitaire mais qui est globalisé, mais qui, du point de vue de la suspension de la démocratie, s'est remis au même, rassurez-vous, qui frustre les peuples, qui fait que ces peuples ont des demandes de protection qui sont parfaitement légitimes, et qu'à force de ne pas vouloir protéger les peuples et les nations qui n'en peuvent plus, on risque de nourrir de drôles de serpents. Effectivement, ça c'est tout à fait possible. Mais peut-être que, effectivement, les forces de gauche qui ont voté pour le libre-échange, je rappelle quand même que le TCE, c'est un truc qui institue le libre-échange. Comme le rappelle Emmanuel Todd, il n'y a que l'État esclavagiste sud-américain, la Confédération, qui mettait le libre-échange dans sa constitution. Il faut quand même avoir ça en tête. Bon. À force de refuser de protéger les nations et les peuples qu'on est censé, en tant qu'État, protéger, on peut avoir de très très mauvaises surprises. Ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième, c'est que lorsqu'on parle de fascisme, il faut être rigoureux, si vous voulez. Je me demande si Pasolini n'aurait peut-être pas plutôt raison lorsqu'il nous expliquait que pour que le fascisme revienne, il faut qu'il s'appelle antifascisme. Clairvoyance pasolinienne, évidemment. Quelque part, ce que je vous raconte, en lisant du Polanyi un peu sérieusement pour voir ce qu'il racontait sur le fascisme, et puis en racontant aussi un peu ce que nous explique Jean-Claude Michéa, un bon lecteur de Christopher Lasch aussi, Pape d'Orwell, on ne peut être que frappé par cette sorte d'idéologie du capital global et de ses idiots utiles qui nous précipitent vers des lendemains qui ne sont pas forcément très, très réjouissants, si vous voulez. Hein. Donc, écoutez, vous avez raison, je suis un prophète de malheur, c'est à peu près. Mais la fonction des prophètes de malheur dans les Écritures est très simple, c'est d'éviter au peuple la catastrophe. Donc ça sert à ça, un prophète de malheur. Donc écoutez, maintenant qu'on sait, voilà, on peut peut-être faire autrement. Autant dire que je ne suis pas sûr qu'on ait pris les bons chemins. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie, Pauline, de votre invitation. J'ai conscience d'avoir un propos parfois qui peut être un peu polémique. En fait, c'est même pas par mentalité provocatrice. Je ne suis pas du tout, en fait.
Il y a pire.
Ouais, il y a pire. Sauf quand j'appelais certains de mes élèves, je disais, êtes-vous un fédéré ? Oui, c'est ça. C'était pas mal. Écoutez, j'ai une chemise rouge aujourd'hui, donc j'ai pensé. Voilà, il y a 15 ans, les choses comment se passaient, oui. Mais c'est que voilà, tout ça est inquiétant. Et puis culturellement, si vous voulez, on a un problème. C'est quand même la fabrique du vide. Lipovetsky avait écrit l'ère du vide, mais là, on en est dans la fabrique industrielle, si vous voulez. Voilà. Et ça fait un peu peur. Voilà. Merci donc. Et puis maintenant, on peut en venir aux questions, quoi. Si vous en avez envie.
Bonne élève. Il a d'abord.
Pablo. Je t'en prie, Geoffroy.